que d'ailleurs avec Orange Monnaie pour accéder à des services financiers simples et sécurisés.
Éco d'ici, éco d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui vous donne des clés pour mieux comprendre l'économie. Branle-bas de combat cette semaine sur la planète. Économie, que faire? Que faire face à un péril inattendu venu de Taïwan et qui, à lui seul, grippe l'industrie mondiale dans son ensemble?
首先带您看到全球车用晶片短缺状况严重，并传出呢美国
smartphones or laptops take them for granted. The tiny silicon-based semiconductors that fuel our modern lives are.
Une usine à l'arrêt. Ce matin, les 3000 ouvriers de Renault Sandouville n'ont pas embauché. Il leur manque ces pièces, des semi-conducteurs, et la pénurie ne fait que commencer.
Les semi-conducteurs, ces toutes petites pièces, des micro-puces en silicium utilisées dans bien des secteurs, les voitures, les avions, les téléphones, les consoles de jeux, mais aussi les missiles. Eh bien, on en manque depuis des mois. Une pénurie majeure qui provoque la stupeur, le vide dans les étalages de certains magasins chez les concessionnaires automobiles et qui pose énormément de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec nos invités. Mathieu Duchâtel, bonjour.
Bonjour.
Responsable du programme Asie à l'Institut Montaigne, une plateforme de réflexion, de proposition sur les politiques publiques, notamment en matière d'économie. Mathilde Aubry, bonjour à vous aussi.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'école de management de Normandie, responsable de la chaire Management de la transformation numérique. Quelles sont les raisons profondes de cette crise, ses implications cachées, quelles conséquences à long terme et surtout maintenant, quelles solutions envisager par ceux qui souffrent le plus de la situation? À tout de suite, juste le temps de vous parler de notre grand entretien cette semaine. Alors que le Covid reprend de la vigueur dans certains pays, demain dimanche se tient un sommet mondial de la santé au croisement des mondes scientifiques, politiques et des affaires. La professeure Mariana Mazzucato, présidente du Conseil sur l'économie de la santé pour tous, un organe de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est une économiste de premier rang qui ne mâche pas ses mots, vous l'entendrez. Elle a accordé un entretien à Anne Verdaguer. Nous l'entendrons à la fin de cette émission, juste après notre discussion sur les semi-conducteurs. Si ce sujet vous a intéressé, si vous souhaitez que l'on parle d'une autre actualité économique, RFI Echo, vous tapez ces deux mots sur Facebook et sur Twitter. Et c'est à vous, Mathieu Duchâtel, que je pose la première question. Avant que l'on se rende à Taïwan, rapidement, selon vous, les origines fondamentales de cette crise, est-ce que c'est une mauvaise anticipation? Est-ce qu'elle serait arrivée sans la pandémie de Covid-19?
Alors bien sûr, la pandémie est l'une des sources des pénuries de semi-conducteurs qu'on observe aujourd'hui, mais c'est pas la seule, hein. C'est la plus évidente, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier non plus le contexte géopolitique et la confrontation US-Chine et les restrictions établies par les États-Unis pendant les deux dernières années de l'administration Trump sur l'accès de Huawei aux technologies de semi-conducteurs qui ont poussé Huawei en 2019, en 2020, quand c'était encore possible, à constituer des stocks à une échelle qui a eu un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur, puisqu'on a les chiffres pour 2019. Huawei a constitué pour 23 milliards de dollars de stocks de semi-conducteurs pour maintenir ces chaînes de production, en particulier ces chaînes de production de smartphones.
Donc le Covid n'a fait qu'aggraver les problèmes?
Le Covid a aggravé effectivement les problèmes et cette dimension-là. Huawei n'est pas la seule entreprise chinoise qui a constitué des stocks. On a vu que d'autres entreprises chinoises, alors pas autant que Huawei, mais ont été désignées par le département du commerce américain sur des listes restrictives, hein, y compris d'ailleurs SMIC, la grande entreprise chinoise de fabrication de semi-conducteurs, la plus grande fonderie chinoise, mais aussi d'autres consommateurs de semi-conducteurs. Donc on a un effet stock qui a aggravé les dérèglements de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs qui a été le résultat des arrêts de certaines usines dans l'industrie automobile d'un côté, donc au début de l'année 2020, et de l'autre côté des demandes croissantes, disons, de ce qu'on peut appeler l'industrie du tout numérique ou du pur numérique dans le contexte de la pandémie. Donc deux grands facteurs de dérèglement.
Mathilde Aubry, en tant qu'économiste, vous l'aviez vu venir cette pénurie depuis longtemps ?
Alors, il faut savoir que le secteur des semi-conducteurs est caractérisé par une alternance de phases durant lesquelles les capacités de production sont trop importantes par rapport à la demande ou trop faibles par rapport à la demande. Ça fait un moment qu'on étudie cette cyclicité des marchés et qu'on la connaît. On sait qu'elle est due justement à la difficulté d'ajuster les capacités de production dans un secteur qui demande des investissements très très lourds, mais aussi dû au fait que la demande évolue très très vite et que les produits deviennent très rapidement obsolètes. Cependant, non, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait vu venir à cette échelle-là. On savait qu'il y aurait des périodes de tension là qui arriveraient, mais les causes expliquées précédemment viennent accroître l'ampleur du cycle qu'on connaît habituellement.
Alors on va donc aller à la racine, à Taïwan, où se trouve le correspondant de RFI, Adrien Simor. Bonjour Adrien.
Bonjour Bruno.
Taïwan, 24 millions d'habitants, cette île qui a joué un rôle très important dans cette crise. Expliquez-nous pourquoi.
Eh bien, Taïwan joue un rôle majeur dans cette chaîne de production de l'électronique. Taïwan possède tout un écosystème de fabrication de semi-conducteurs, ce qui en fait de loin le leader mondial. L'entreprise la plus connue est évidemment le fleuron national TSMC. TSMC possède 70% du marché mondial des puces électroniques et plus de 90% en ce qui concerne les modèles les plus avancés. Par exemple, ceux que l'on retrouve dans les derniers iPhones d'Apple. Il suffit donc d'un grain de sable dans la machine pour que la chaîne de production mondiale de l'électronique s'en trouve affectée. Et c'est justement ce qu'il se passe depuis environ un an et demi. Écoutez Brady Wang, il est analyste au sein du cabinet de recherche Counterpoint et ancien ingénieur chez TSMC. Il revient sur les causes de la pénurie.
US-China trade wars. D'abord, il y a eu la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Huawei a été banni par les États-Unis. Donc tous les fabricants de smartphones se sont précipités pour récupérer le marché. Ils ont passé énormément de commandes à TSMC et aux autres fondeurs. Puis à la fin de l'année dernière, la demande en automobile a repris en Chine avec le ralentissement de l'épidémie. Et cela a créé une autre pénurie. Aujourd'hui, la situation s'améliore un peu, mais il y a encore des composants clés qui manquent, comme par exemple les puces pour les téléphones 4G ou encore les circuits de gestion des batteries qui sont utilisés par toutes les industries.
In all applications. On sent bien cet effet domino de pays en pays. Adrien, que fait TSMC pour améliorer la situation ?
Eh bien, TSMC essaye d'augmenter évidemment sa production. En début d'année, l'entreprise a annoncé une enveloppe de 100 milliards de dollars pour accroître sa production. Mais ces lignes de production sont évidemment très techniques. Il faudra donc attendre plusieurs années avant qu'elles soient opérationnelles. La pénurie de puces devrait donc se poursuivre au moins jusqu'à l'année prochaine. Autre conséquence de la crise, les grandes puissances demandent aussi à TSMC de déplacer une partie de sa production hors de Taïwan pour réduire leur dépendance. Ces derniers mois, TSMC a ainsi annoncé la construction d'une nouvelle usine aux États-Unis, mais aussi au Japon. Cela ne sera pas facile pour tous les pays. Écoutez à nouveau le spécialiste Brady Wang.
Le coût de production des puces électroniques est beaucoup plus élevé au Japon, aux États-Unis ou dans l'Union européenne qu'à Taïwan. Donc TSMC aura besoin d'incitations financières pour déplacer ses lignes de production. Mais si le marché est suffisamment important localement, alors je pense que TSMC peut y trouver un intérêt.
Et certains pays ont déjà pris de l'avance, notamment l'Allemagne. L'Allemagne avec qui TSMC serait déjà en discussion pour construire ce qui serait sa première usine en Europe.
Merci Adrien Simor, correspondant de RFI à Taïwan. On va revenir sur plusieurs de ces points. D'abord avec vous Mathieu Duchâtel, pourquoi TSMC écrase à ce point la concurrence ?
Alors, il y a deux choses qui sont vraiment très particulières avec cette entreprise TSMC. D'abord, c'est que c'est l'inventeur de ce qu'on appelle le modèle de la fonderie sous contrat. Qui distingue TSMC des grands fabricants de semi-conducteurs qui existent en Europe. Donc on a trois grands fabricants, STMicro, NXP et Infineon, qui interviennent sur l'ensemble de la chaîne. Donc on dit que c'est des fabricants intégrés de semi-conducteurs qui font de la conception, de la fabrication et ensuite du test et de l'assemblage. TSMC se concentre uniquement sur la fonderie, donc sur la production de semi-conducteurs. Et grâce à cette spécialisation, qui a été le grand choix stratégique de son fondateur Maurice Chang, elle est dans une symbiose parfaite avec les grands concepteurs, donc l'autre volet de la spécialisation dans l'industrie des semi-conducteurs qui s'est produite dans les années 70 et 80 et peut donc travailler pour les concepteurs américains qui sont Broadcom, Qualcomm, Nvidia, alors maintenant aussi Apple qui a sa branche de conception de semi-conducteurs. Et donc on a une division qui s'est mise en place entre TSMC, la grande fonderie sous contrat, et les grands concepteurs qui sont dans l'ensemble dans la Silicon Valley. Ce modèle a été tellement un succès que les investissements en matière de recherche et de développement ont pu être dirigés vers une politique d'innovation qui a très très bien fonctionné. Et c'est le deuxième point qui distingue TSMC de tous ses concurrents, à l'exception peut-être de Samsung. C'est que TSMC a franchi le seuil de la gravure en 7 nanomètres. Alors, vous avez dans l'industrie des semi-conducteurs toute une gradation dans la gravure qui va de plus en plus petit. En fait, le chiffre 7 nanomètres représente la taille entre deux transistors sous une puce. Donc, plus il est réduit, plus vous pouvez mettre de transistors sur une puce. 7 nanomètres, c'est un seuil extrêmement important. C'est ce dont on a besoin pour faire, disons, du numérique haut de gamme. Hein, on a parlé des derniers iPhones d'Apple. Aujourd'hui, TSMC est la seule compagnie dans le monde à faire du 5 nanomètres à cette échelle. Là, mais le client quasi exclusif de TSMC pour cette fonderie à 5 nanomètres, c'est Apple. Donc TSMC a un TSMC dans un duopole, parce que Samsung fait aussi de ça, mais Samsung le fait pour l'électronique grand public de Samsung, alors que TSMC le fait pour Apple. Vous avez un duopole qui s'est constitué entre TSMC et Samsung sur l'industrie numérique haut de gamme.
Mathilde Aubry, sur ce point, pourquoi les Occidentaux et notamment les Européens n'ont pas réussi, si ce n'est à concurrencer TSMC, au moins à partager le marché ?
Alors il faut d'abord savoir que c'est un secteur sur lequel il est compliqué de partager le marché parce que les coûts fixes pour entrer sur le marché, les investissements pour entrer sur le marché sont très élevés, et ce qui fait qu'on est sur un secteur où on considère que le gagnant remporte la mise, le premier remporte la mise, ce qui fait que c'était assez facile finalement dans ce secteur-là d'avoir des entreprises qui pouvaient se situer en monopole ou en oligopole. On retrouve Intel aux États-Unis qui domine largement sur les entreprises qui font à la fois de la conception, de la R&D et de la production, et puis on trouve TSMC sur la production. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on est sur des secteurs où les aides publiques sont très importantes, et les régions du monde qui ont réussi à s'en sortir dans le secteur de semi-conducteurs sont des régions qui ont bénéficié de soutiens politiques très très importants, que ce soit en termes de subventions ou d'aide en termes fiscales. Et très clairement, à Taïwan, il y a une politique très volontariste de domination par le secteur des semi-conducteurs qui viennent aussi des politiques du pays.
Mathieu Duchâtel, vous qui connaissez bien Taïwan, c'est une politique orchestrée par le pouvoir taïwanais ?
Alors oui, sur l'ensemble de l'industrie, et je pense qu'il faut rappeler que TSMC est une émanation d'un centre de recherche public taïwanais qui s'appelle LITRI, qui a été mis en œuvre par le gouvernement taïwanais dans les années 70, avec pour objectif de prendre en charge la fonction recherche et développement des petites et moyennes entreprises. Et en cela, le gouvernement taïwanais a eu une politique très 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 développementaliste, avec un soutien sectoriel très fort aux semi-conducteurs. Après, effectivement, comme l'a souligné Mathilde Aubry, TSMC bénéficie de facilités sur le territoire taïwanais pour ces fonderies, alors en matière aussi d'accès à l'électricité, d'accès à l'eau. On a là des conditions qui sont particulièrement privilégiées, mais qui s'expliquent aussi par l'importance de TSMC pour Taïwan dans le contexte géopolitique que l'on connaît, qui fait de TSMC l'un des fleurons de Taïwan. en particulier en raison de l'importance de TSMC pour les États-Unis et pour le Japon.
Ce qui nous mène à un bras de fer avec Pékin, avec les Chinois qui subissent eux aussi cette pénurie de semi-conducteurs.
Alors c'est vraiment très intéressant. En 2019, au moment où les restrictions de l'administration Trump en étaient encore à leur début, j'avais pu parler à pas mal de personnes de l'industrie des semi-conducteurs à Taïwan qui disaient encore à l'époque, si la tendance continue comme ça, on pourra créer une chaîne de valeur pour la Chine et puis une chaîne de valeur pour les États-Unis. Et à l'époque, Huawei avait dépassé Apple comme premier client de TSMC. Une année plus tard, TSMC ne vend plus à Huawei, parce que les restrictions américaines sont devenues trop importantes et que TSMC a été contraint de faire un choix. Le choix de TSMC a été clair. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le haut de gamme, donc sur le 7 nanomètres, sur le 5 nanomètres, pour lesquels Huawei aurait été un client majeur de TSMC si les restrictions américaines n'avaient pas frappé, eh bien, il y a eu absolument aucun impact sur l'écoulement de la production de TSMC, parce qu'on est dans une situation où la demande excède largement la capacité de production. Donc TSMC a abandonné Huawei, son premier client, sans qu'il n'y ait aucun impact sur ses plans de développement. Par contre, ce qu'il faut bien souligner aussi, et là c'est propre à l'industrie automobile, c'est que malgré toutes les tensions géopolitiques dont on parle, TSMC a une présence importante sur le continent chinois, mais pas sur les segments les plus innovants de la fonderie, sur le 55 nanomètres, sur le 90 nanomètres, etc. Et a décidé d'investir dans une augmentation considérable de ses facilités de production dans la province du Jiangsu, sur ces nœuds de production-là. Donc on parle de plus de 2 milliards de dollars d'investissement sur les 3 prochaines années. Et ce qu'on peut en conclure, c'est que d'un côté, TSMC maintient son avance technologique sur la Chine. De l'autre côté, une partie de la solution pour l'industrie automobile viendra d'une alliance de fait entre TSMC et les capacités de production chinoises.
Mathilde Aubry, puisqu'on en parle, pourquoi l'automobile est à ce point touchée, apparemment plus que les autres industries ? En Europe et ailleurs?
Alors déjà dans votre question, il y a une partie de la réponse. Apparemment, il y a d'autres industries aussi qui sont extrêmement touchées, dont on parle moins peut-être parce qu'elles ont aussi moins de visibilité. Et puis là, on parle beaucoup de l'automobile parce qu'on a des fermetures vraiment de lignes de production et donc des personnes qui sont mises au chômage partiel. Mais ce ne sont pas les seuls absolument à être touchés. C'était pas les premiers non plus à avoir mis en avant le fait qu'ils s'étaient mis en difficulté. La différence peut-être entre l'automobile et notamment par exemple l'électronique grand public, c'est que l'anticipation a été beaucoup moins importante. J'ai échangé avec un industriel il y a peu de temps qui me mettait en avant le fait que lorsque le Covid est apparu et qu'on a eu de grosses tensions économiques internationales, les fabricants d'automobiles ont stoppé leurs commandes de semi-conducteurs tout de suite en se disant que quand ça reprendra, ils n'auraient qu'à relancer leurs commandes. Et ils les ont commandées finalement assez tardivement, ce qui peut aussi expliquer qu'ils étaient mis en difficulté aussi longtemps. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les semi-conducteurs sont aujourd'hui dans de plus en plus de secteurs d'activité et de plus en plus nombreux. Finalement, leur arrivée dans le secteur de l'automobile, alors sans être nouvelle, hein, mais plus récente que dans le secteur de l'électronique notamment, qui dépendait directement des semi-conducteurs très 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 tôt. Et donc il y avait peut-être une mauvaise connaissance aussi de ce secteur, de sa cyclicité et de l'incapacité à adapter complètement l'offre à des sauts de demande importants.
Vous avez commencé à parler des conséquences sociales dans le secteur automobile. Écoutez ce témoignage d'un salarié de Renault, constructeur français, dans une usine à Batilly, en Meurthe-et-Moselle. C'est dans l'est de la France, particulièrement inquiet.
Les salariés, effectivement, sont quand même relativement inquiets, hein, parce qu'on sait très bien que de façon temporaire, ça posera pas de problème, mais que si ça s'étale dans le temps, effectivement, ça risque de poser problème. En plus, on a eu la venue du PDG Renault il y a à peu près une quinzaine de jours sur notre site. J'ai eu la chance de le rencontrer et il nous a clairement expliqué que de toute façon, avant au minimum fin du premier semestre 2023, on allait rencontrer de nombreux problèmes liés à la crise mondiale des semi-conducteurs, quoi. On a quelques craintes, hein. Il y a un nouveau véhicule qui arrive, c'est un secteur qui est très concurrentiel, et si notre véhicule il est présentable après les autres, on a peur de perdre des parts de marché par rapport à ça. Donc ça, c'est une inquiétude globale de l'usine.
Grégory Picciot, syndicaliste force ouvrière chez Renault, joint par Patricia Lecomte du service économie de RFI, Mathilde Aubry, on entend cette inquiétude à long terme, ça va durer des mois et des mois, le marché automobile va s'écrouler comme ça. J'ai même lu qu'un syndicat de Stellantis en Italie a dit que cette crise serait pire que celle du Covid-19 dans l'automobile.
Ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas sur un secteur où on peut solutionner le problème à court terme. Par exemple, on parlait de TSMC. TSMC, quand elle annonce l'accroissement de ses capacités de production, elle dit qu'elle pourra produire pour 2024. Donc on se rend bien compte qu'il y a un temps d'adaptation pour réussir à augmenter les infrastructures et donc les capacités de production qui est assez long et qui va faire que ça va durer. D'autant plus que les industriels aujourd'hui sont en train de stocker pour éviter les difficultés et donc alimentent quelque part la pénurie par leur propre comportement. Donc effectivement, ça risque de durer encore un moment.
Mathieu Duchâtel, comme en Europe, en Chine, au Japon, en Asie, partout, les usines automobiles sont complètement à l'arrêt, automobiles et dans d'autres secteurs concernés?
Alors, c'est pas vrai de tout. Je sais que, par exemple, Toyota se sort plutôt bien de cette crise.
Parce qu'ils avaient anticipé?
Parce que leur chaîne de production, leur chaîne d'approvisionnement ont résisté au choc. Alors, mais c'est pas vrai de tout, effectivement. Je pense que, enfin, il y a deux choses à souligner ici complémenter les propos de Mathilde Aubry. D'abord, c'est que avec l'industrie automobile, on est sur un segment très spécifique des besoins en semi-conducteurs. On est sur des segments au-delà de 100 nanomètres, entre 100 et 500. Et on voit là que la croissance de la demande de l'industrie automobile à l'horizon 2024 va sans doute rester supérieure à la capacité d'offre. Et c'est en cela que la Chine est extrêmement importante sur ce segment-là. Parce que la Chine a l'échelle industrielle pour agir avec un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur. J'ai parlé déjà de l'augmentation de la fonderie de TSMC en Chine. Il y a un deuxième grand facteur qui va jouer pour résorber les problèmes de demande de l'industrie automobile. C'est l'investissement de SMIC, donc le principal fondeur chinois, sur ce segment-là, dans une augmentation considérable de ses capacités. Et on parle là aussi d'un investissement qui est supérieur à 2 milliards de dollars. Ce qu'on peut en conclure, c'est que les plus grands investissements sur ce segment de production des semi-conducteurs, donc au-delà de 100 nanomètres, vont venir de l'industrie chinoise.
On va y revenir tout à l'heure. Comment sortir de cette crise des semi-conducteurs? On continue d'en parler dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, avec Mathieu Duchâtel, responsable du programme Asie à l'Institut Montaigne, et Mathilde Aubry, professeure à l'École de Management de Normandie. Les solutions, en effet. Je voudrais que pour cela, nous partions aux États-Unis, qui fabriquent aussi des semi-conducteurs. Cette industrie est représentée par une association, SIA. L'un de ses dirigeants est Jimmy Goodrich. Ariane Gaffuri, du service économie de RFI, l'a joint au téléphone.
À cause de la pénurie de semi-conducteurs, certaines industries, les constructeurs automobiles notamment, ont dû arrêter leur production temporairement et mettre leurs employés au chômage partiel. Cette pénurie a aussi affecté la fabrication d'autres produits comme les équipements médicaux, l'électronique, l'informatique ou l'industrie du jeu. Les leçons que nous avons tirées de cette pandémie, c'est que nous devons mieux gérer notre chaîne d'approvisionnement. Il faut qu'il y ait un inventaire, une relation durable avec nos fournisseurs de semi-conducteurs. Nous devons aussi accélérer le développement de nouvelles technologies. Si nous avions progressé de ce côté, les pénuries n'auraient pas été aussi importantes. Deuxième leçon que nous avons apprise, c'est que les États-Unis doivent produire davantage. Aujourd'hui, 100% des technologies les plus avancées sont fabriquées en Asie, dans une région instable sur le plan géopolitique, une région sismique, et tout cela nous fragilise. C'est pourquoi l'exécutif a débloqué une enveloppe de 52 milliards de dollars pour construire de nouvelles usines aux États-Unis et renforcer notre production. Cela ne veut pas dire que nous deviendrons autonomes, puisque aucun pays ne peut l'être aujourd'hui, les coûts seraient faramineux, mais nous pouvons mieux assurer notre sécurité, être plus résilients grâce à des investissements stratégiques.
Innover, produire davantage sans être autonome. Mathilde Aubry, elle est là la solution ?
Complètement. Alors, on se rend bien compte, et c'est tout à fait bien dit dans l'intervention précédente, c'est qu'aucun pays, aucune région même du monde peut décider d'être complètement autosuffisant en termes de semi-conducteurs. Les investissements seront trop importants et la conséquence serait évidemment moins d'innovation et des prix qui augmenteraient. Donc c'est pas la solution. En revanche, mieux équilibrer la production de semi-conducteurs sur le territoire. Il faut aussi avoir en tête que la diversification du secteur qu'on a connu, qui fait que on a pensé qu'on pouvait très bien faire d'un côté de la conception et de la R&D, et puis de l'autre de la production, sans forcément que ça soit lié. On se rend compte que finalement c'est une mauvaise idée, qu'il faut participer en tout cas à une réflexion qui permette de reverticaliser un petit peu le secteur et pour les utilisateurs réfléchir à se rapprocher finalement des producteurs de semi-conducteurs. On se rend compte qu'il y a une très mauvaise connaissance du marché des semi-conducteurs en général et notamment dans l'automobile, la complexité de la chaîne de valeur faisait que on n'avait pas du tout conscience d'à quel point on était dépendant de ce secteur et à quel point ce secteur pouvait être instable. Donc il est vraiment important que la chaîne de valeur, depuis le producteur de semi-conducteurs jusqu'aux utilisateurs, soit beaucoup plus fluide.
La prise de conscience, Mathieu Duchâtel. Au passage, vous avez entendu dans la voix de notre interlocuteur américain l'Asie, l'Extrême-Orient, région sismique. On sent qu'il y a une méfiance, hein, que cette affaire-là a attisé la méfiance.
Oui, alors effectivement, Taïwan est à côté d'une faille. Alors, je pense qu'on est face au retour des politiques industrielles aux États-Unis et aussi en Europe dans ce contexte, que les États-Unis ont agi plus vite, avec la décision de l'administration Trump, mais aussi du gouvernement de l'État d'Arizona de subventionner copieusement TSMC pour un investissement dans une fonderie dont la première pierre a déjà été posée et qui va faire du 5 nanomètres, donc une technologie, disons, parmi les plus avancées, qui ne sera pas la plus avancée au moment où les premiers circuits intégrés sortiront de sa chaîne de production, mais qui est très avancée et qui répondra aux besoins de l'industrie numérique américaine. Les Japonais attirent aussi TSMC, les Allemands aussi, alors votre correspondant en a parlé, mais pour les besoins particuliers de l'industrie automobile allemande. Et l'Europe se pose des questions. On a, de la part de l'Europe, une initiative très forte de la Commission et de Thierry Breton en particulier pour diriger les financements européens vers de la capacité de production en Europe. Et on a, du côté de l'industrie européenne, plutôt une tendance à demander à ce que les financements européens soient dirigés vers leurs besoins immédiats en matière de recherche et de développement, mais pas forcément de capacité de production. Donc on aura dans les prochaines semaines, si ce n'est les prochains mois, la composition exacte de ce qu'on appelle en langage bruxellois le projet d'intérêt commun européen IPCEI sur la nanoélectronique, qui va financer l'industrie nanoélectronique européenne pour les prochaines années. Alors pas pour une fonderie des générations 5 nanomètres, etc., mais plutôt sur les forces existantes des industries en Europe. Et on a une vraie question sur ce qui vient après, parce que la question d'une fonderie pour les besoins de la transformation numérique de l'Europe reste entière. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse, on a un débat politique avec des positionnements différents de la part de la Commission et de l'industrie.
Construire des usines, ça prendrait beaucoup, beaucoup trop de temps, Mathilde Aubry, malgré cette question de la souveraineté technologique.
C'est un risque, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe et qu'on observe depuis très longtemps et qui est lié à la cyclicité, justement, du marché. Le temps de construire les capacités de production, de décider d'investir et que les usines se montent, effectivement. Très souvent, lorsque les usines deviennent utilisables et peuvent produire, les produits arrivent sur un marché qui est déjà potentiellement en train de redescendre avec des prix plus bas et une demande plus basse. On imagine bien aujourd'hui que si les utilisateurs finaux sont en train de stocker, on va avoir une tension pendant encore très longtemps et puis au bout d'un moment, les carnets de commandes vont se désemplir et on va avoir une baisse de la demande, donc une baisse des prix. Le risque, c'est que l'Europe, quand elle va accroître sa capacité de production, si elle arrive après Taïwan, après les États-Unis, arrive à un moment où l'usine fonctionne avec des produits, alors que la demande, cette fois-ci, n'est pas suffisamment importante par rapport aux capacités de production mondiales.
Certains vont plus vite que d'autres. Mathieu Duchâtel, Alibaba, le groupe chinois, vient d'annoncer avoir développé une puce pour faire fonctionner ses serveurs du cloud, les services informatiques dématérialisés.
Oui, tout à fait. Alors, c'est l'une des forces, finalement, du secteur des semi-conducteurs en Chine, d'avoir de grandes plateformes avec des visions sur le hardware. C'est le cas aussi de Paitu. Je note aussi l'intérêt très fort d'Alibaba pour la reprise des actifs de l'entreprise Tsinghua Unigroup, qui est une entreprise particulièrement intéressante parce qu'elle était un bras du gouvernement chinois pour financer le secteur des semi-conducteurs en Chine, avec des capacités de production, y compris sur des puces mémoire, mais aussi pour financer des acquisitions à l'étranger. Tsinghua Unigroup avait tenté l'acquisition de l'entreprise américaine Micron, qui est un des géants des puces mémoire, avait même souligné qu'ils avaient des vues sur TSMC, ce qui évidemment ne s'est pas produit, et se retrouve aujourd'hui avec des défauts sur ses obligations d'entreprise. Donc je pense que ça souligne deux choses. D'abord, l'importance d'Alibaba, ça vous avez tout à fait raison de le rappeler, Alibaba comme acteur sur le secteur des semi-conducteurs, mais aussi peut-être les risques trop importants que la Chine a pris en matière de financement de projets qui n'ont pas entièrement abouti. Et donc dans le système chinois, on a beaucoup d'investissements publics, on a aussi pas mal de gâchis, on a dans l'ensemble une industrie qui fait des progrès, mais on n'a pas dans une approche optimale de la gestion de projet.
Ça pourrait permettre à Alibaba de se rabibocher un peu avec le pouvoir chinois peut-être.
C'est une question, effectivement.
C'est une des solutions, Mathilde Aubry, des synergies entre des groupes, pas forcément de même nationalité.
Complètement, et c'est finalement ce que on en parlait tout à l'heure. Il va falloir que les fabricants de semi-conducteurs se rapprochent, y compris de leurs utilisateurs finaux. Pas obligatoirement sur un même territoire. Là, on l'a vu, alors on parlait de l'automobile tout à l'heure, par exemple, Renault a créé un partenariat stratégique avec STMicroelectronics. L'idée, c'est vraiment que pour les fabricants de semi-conducteurs, ils puissent s'assurer des débouchés. C'est une question qui se pose souvent pour eux, parce qu'ils sont dans des situations d'incertitude lorsqu'ils innovent. Est-ce que les puces pourront être utilisées et adaptées aux besoins finaux? Ça paraît pas être le problème central aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'ils ont pas de soucis pour vendre, mais généralement, c'est des grosses problématiques pour eux. Et puis, pour les utilisateurs finaux, là, dans le cas de Renault, par exemple, ils s'assurent à la fois d'avoir des produits semi-conducteurs adaptés à leurs propres besoins et à ceux de leurs acheteurs, et puis de s'assurer un accès à la production quand cela est pertinent.
D'un point de vue plus macroéconomique, même si c'est pas précisément votre domaine, est-ce que vous pensez, Mathilde Aubry, que cette affaire-là pourrait handicaper la croissance par exemple en Europe, perturber la reprise économique?
C'est difficile à anticiper parce qu'effectivement c'est une crise qu'on n'a jamais connue à ce niveau-là. Pour l'instant, les entreprises de semi-conducteurs européennes sont plutôt poussées par la situation de cette crise parce que ils voient leurs prix augmenter, ça leur donne la possibilité d'innover. Donc ça peut aussi servir comme levier finalement pour l'écosystème de la microélectronique et l'électronique au niveau européen.
Il va falloir embaucher en tout cas, a priori.
dans ce secteur, effectivement, oui. Et puis après, pour les utilisateurs, ils sont mis pour les entreprises utilisatrices, elles sont mises aujourd'hui en difficulté. C'est pas forcément celles qui portent le plus la croissance à court terme qui peuvent être l'objet des plus grandes inquiétudes. En effet, on voit aussi tout un écosystème de start-up ou de petites entreprises qui s'appuyaient sur les semi-conducteurs pour innover et pour se développer dans des secteurs innovants, comme la e-santé, comme la e-agriculture ou la sécurité, et qui sont aujourd'hui mises en difficulté dans leur processus d'innovation parce qu'ils n'accèdent pas aux semi-conducteurs dont ils auraient besoin. Donc c'est plutôt peut-être vers cela qu'il faudrait que l'on pourrait avoir des inquiétudes et qu'il faudrait soutenir au niveau national européen.
Mathieu Duchâtel, ça peut poser des problèmes, effectivement, des problèmes ou créer des opportunités d'ailleurs, hein, dans le domaine de l'innovation technologique, dans le domaine de la recherche. Mathilde Aubry vient de parler de la santé, par exemple.
Oui, et je pense que, enfin, j'aimerais bien vous donner l'exemple chinois, parce qu'on est quand même dans un pays qui a des ambitions de leadership en matière d'industrie de semi-conducteurs, qui a fixé un plan extrêmement ambitieux de fabrication locale, donc sur le territoire chinois, de 70% de ses besoins en semi-conducteurs à l'horizon 2020, donc déjà l'année dernière, alors qu'ils en sont finalement moins de 15% aujourd'hui, donc un pays qui a énormément de mal à atteindre ses objectifs. Et un pays qui, en raison des restrictions américaines sur les transferts de technologie, va voir son innovation handicapée sur certains domaines. Alors, le meilleur exemple, c'est celui des smartphones haut de gamme de Huawei. En réalité, les restrictions américaines ont tué ce segment de la production de Huawei. Huawei ne sera pas présent sur les smartphones haut de gamme 5G parce qu'il n'a plus accès à la production de TSMC. Ça, c'est un exemple tout à fait concret. Mais le fait que des restrictions soient en place sur l'accès de la Chine à certains équipements qui peuvent permettre de franchir ce seuil des 7 nanomètres exclut la Chine d'un cycle d'innovation que les autres sont en train de maîtriser aujourd'hui. Alors bien sûr, au premier plan desquels les États-Unis et Taïwan dans le haut de gamme du numérique. Et donc, on a vraiment là, quand on regarde au-delà de la pure production sur la chaîne de valeur des semi-conducteurs et sur les goulets d'étranglement en particulier, des moyens de freiner la montée en puissance de la Chine qui sont pleinement utilisés par les États-Unis aujourd'hui.
On va terminer avec vous, Mathilde Aubry. Les enjeux, ils vont au-delà de nos jeux vidéo, des jouets qu'on trouvera ou qu'on ne trouvera pas sous le sapin à Noël.
Bien au-delà, effectivement. Là, on parle, et c'est pour ça on parle aujourd'hui beaucoup de l'automobile, on a parlé à un moment aussi de l'électroménager, mais les semi-conducteurs, ils sont aussi en moins grande quantité en termes de masse utilisée, mais aussi dans des secteurs qui sont très, très porteurs et qui sont hautement stratégiques. Notamment en Europe. Donc c'est ces secteurs-là aussi qu'il faut observer et sur lesquels il va y avoir des enjeux importants à suivre.
Merci à vous, Mathilde Aubry, professeure d'économie à l'école de management de Normandie, responsable de la chaire Management de la transformation numérique, précisément. Merci également à Mathieu Duchâtel, responsable du programme Asie à l'Institut Montaigne.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Ce dossier complet, il est à retrouver en podcast sur le site de RFI à la page Écho d'ici, écho d'ailleurs, mais aussi sur nos différents supports numériques, nos chroniques quotidiennes. Aujourd'hui l'économie, Afrique économie, la chronique des matières premières, à écouter et à lire aussi sur Facebook et sur Twitter, RFI Écho. Et comme promis, c'est l'heure de notre grand entretien pour une réflexion sur le capitalisme actuel, alors que se tient dans quelques jours le sommet des chefs d'État du G20 à Rome, la COP26 à Glasgow, et dès ce dimanche, un sommet mondial pour la santé à Berlin. Mariana Mazzucato est une économiste italo-américaine, présidente du Conseil sur l'économie de la santé pour tous de l'OMS. Son travail porte notamment sur la place de l'État après la pandémie, la relation relations entre les services publics et privés. Entretien signé Anne Verdaguer.
Mariana Mazzucato.
Bonjour Mariana Mazzucato. Dans votre dernier livre, Mission Économie, vous insistez sur le rôle indispensable de l'État sur les économies de marché. En quoi cette approche est-elle pertinente en ces temps de pandémie ?
Je pense que cette approche est pertinente dans la situation que nous vivons actuellement avec le Covid-19, mais aussi d'une façon plus générale pour d'autres enjeux économiques et sociétaux. En fait, nous avons d'un côté les gouvernements et de l'autre les entreprises qui ont chacun un problème de fonctionnement. Dans le cas des gouvernements, qui est le sujet qui m'intéresse, ils interviennent uniquement quand l'économie de marché a échoué. Donc ils attendent qu'il y ait un raté pour venir régler le problème, ou alors ils attendent qu'il y ait ne serait-ce qu'une inquiétude autour d'un échec éventuel. Donc si vous voulez intervenir par exemple sur la question du changement climatique ou sur un accès à la santé pour tous, ce qui englobe la question de l'accessibilité des vaccins, vous avez besoin d'une nouvelle approche proactive qui est de façonner et de créer ces économies de marché ou de co-façonner et de co-créer avec les entreprises et pas uniquement de réparer, parce que si vous êtes toujours dans l'idée de réparer, vous aurez toujours un train de retard. Dans le cas des vaccins anti-Covid, non seulement nous avons besoin d'investissements publics, et d'ailleurs tous les vaccins en ont bénéficié, surtout au début quand le risque était très présent, mais il faut aussi réglementer l'innovation et la production pour être sûr que cela bénéficiera au plus grand nombre. Donc la question des brevets est vraiment cruciale. Et si les gouvernements n'ont pas une part active dans la production de ces brevets, nous aurons un système où l'innovation profite de cet argent public sans contrepartie et où les comportements vont être axés sur la recherche du profit et de la rentabilité chez les grands groupes tels que Pfizer. And seeking different types of rents in the system.
Est-ce que vous pensez que les gouvernements ne prennent pas assez de risques en matière économique ?
En fait, il y a différents types de problèmes, car même aux États-Unis, où le gouvernement prend des risques tout le temps et investit 40 milliards de dollars chaque année dans le secteur de l'innovation de la santé, il n'y a pas de réglementation véritable pour s'assurer que cela bénéficiera à ce que j'appelle le bien commun. Car si vous mettez de l'argent dans le système, que ce soit dans un plan de sauvetage pour les entreprises ou dans la rénovation d'un système de santé ou dans le cadre de l'action climatique, si vous n'y prenez pas une part active, vous ne rendrez pas l'économie plus durable et plus inclusive. Et il n'y aura pas d'impact positif pour les personnes qui ont pris part à ce processus. Les problèmes qui touchent le social en général ne sont pas traités comme des urgences. Nos politiques publiques, qui ne sont pas réfléchies et ne réfléchissent pas à leur interaction avec le secteur privé, tout cela manque de complémentarité et d'efficacité. Et cela n'a rien à voir avec le fait d'être un grand ou un petit pays. Dans mon dernier livre, Mission Economy, j'ai étudié le programme spatial vers la Lune dans les années 60 aux États-Unis. Celui-ci a bénéficié à la fois d'argent public et privé. Et la NASA a posé ses conditions dès le départ. Elle savait comment elle allait rédiger ses contrats avec le secteur privé. Il y avait même une clause qui spécifiait pas de profits excessifs. Alors bien sûr, vous pouvez faire du profit car on ne va pas sur la Lune par philanthropie, mais vous devez partager à la fois la prise de risque et les succès. Et vous ne devez pas en faire un jeu de poker géant, ce qui est arrivé, je pense, à la plupart de nos industries et de nos secteurs d'activité.
Mariana Mazzucato, certains gouvernements, y compris le gouvernement français, ont beaucoup dépensé pour aider le secteur privé à traverser cette pandémie, alors que d'un autre côté, les secteurs de la santé sont toujours en souffrance. Est-ce que cela a à voir avec la valeur que nous donnons aux soins en général et à l'investissement que nous voulons bien y mettre ?
Oui, cette pandémie s'est avérée bien pire que ce qu'elle aurait dû être, car de manière globale, nous n'avons pas assez renforcé nos systèmes de santé. Et ceux-ci sont bien trop souvent associés à la notion de coût qu'à celle d'un investissement qui pourrait rendre notre économie et notre société plus fortes. Cela a deux conséquences. Nous devons bien sûr apprendre de cette pandémie et investir plus massivement dans nos systèmes de santé, car si le Covid était apparu en Afrique et non pas en Chine, cela aurait été bien pire, car les pays africains ont souvent un système de santé bien trop faible. C'est aussi le cas dans d'autres pays en développement. L'autre leçon, c'est que ces plans de sauvetage en direction du secteur privé devraient être assortis de conditions pour les entreprises. Et je pense que le ministre français des Finances devrait être applaudi pour avoir imposé des contreparties à des groupes tels que Renault ou Air France, qui ont dû s'engager à réduire leur empreinte carbone en échange de ces aides. Alors que dans d'autres parties partie du monde, les pouvoirs publics ont distribué ces aides sans condition. Du coup, l'argent a coulé à flot du public au privé, encourageant le profit et sans que cet argent ne soit redirigé dans des investissements qui rendent notre économie meilleure. Nous devons apprendre à spécifier dans les contrats avec les entreprises certaines conditions comme celle de bâtir ensemble une économie plus inclusive, plus durable, certes portée par l'investissement et l'innovation, mais dans le sens d'une économie plus verte et plus résiliente.
But actually landing that investment in innovation in a more resilient, greener economy.
Plus d'une centaine de pays se sont mis d'accord récemment pour imposer une taxe minimale de 15% sur les sociétés qui font beaucoup de bénéfices. Est-ce que cela va dans le bon sens selon vous?
Something that goes in the direction of a healthier economy?
Oui, c'est vraiment le minimum que l'on puisse faire. C'est même fou qu'on doive en faire un sujet de discussion. D'ailleurs, une taxation à seulement 15%, cela reste très bas. Lors de la mission vers la Lune, le taux d'imposition sous Eisenhower, qui était un président républicain, pouvait aller jusqu'à plus de 90%. Il y a un mythe selon lequel trop d'impôts sur les sociétés va empêcher l'investissement et l'innovation, ce qui est totalement faux. Ce qui compte, c'est quel système d'innovation et quel mécanisme de gouvernance prévaut dans les structures qui innovent, mais aussi au niveau des finances publiques. Donc oui, cette taxe mondiale va dans la bonne direction, mais elle peut être évitée. La plupart des revenus de ces entreprises sont récoltés à travers des stock-options, donc le principal changement dont nous avons besoin, c'est de pouvoir taxer les revenus du capital et les dividendes. Cela aurait un énorme impact et permettrait au gouvernement de récolter ce qui leur est dû. Car il faut bien comprendre que tout ce qu'il y a dans nos smartphones a été financé par de l'argent public. Internet, le GPS, Siri, les écrans tactiles. Alors bien sûr, c'est important que des entreprises comme Apple, qui a le sens du design et des compétences, puissent utiliser ces technologies et produire des objets tels que l'iPhone ou l'iPad, mais continuer à faire croire que l'État n'a joué aucun rôle dans la création de ces produits, c'est permettre à ces entreprises de continuer à plaider pour payer moins d'impôts. Dès le moment où vous admettez que ces entreprises bénéficient d'une somme colossale venant de l'argent public et de l'État, la taxation des sociétés devient imparable. Revenons sur la question du climat. La transition écologique que nous vivons actuellement est en train de changer entièrement nos économies. Pensez-vous que les gouvernements doivent là aussi changer leur rapport au marché et aux entreprises pour que cette transition se passe au mieux ? Les questions climatiques sont un sujet de préoccupation depuis les années 70, mais il y a peu de changements. Nous parlons beaucoup, mais nous agissons peu. Donc ce dont nous avons besoin, à la fois du côté de l'offre et de la demande, ce sont des politiques beaucoup plus alignées. Par exemple, dans la politique d'achat des gouvernements, que ce soit pour les repas dans les écoles, la construction d'un pont ou pour des lits dans les hôpitaux, le choix doit être conditionné par l'impact écologique de l'offre de chaque prestataire. Les marchés publics sont une très grosse part du budget de chaque État, donc si l'on veut tirer le meilleur de chaque penny, euro ou dollar que l'on investit, c'est encore mieux. Et cela vaut pour toutes les dépenses de la nation, pas seulement pour le ministère de l'Environnement, mais aussi dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la défense. Si l'on veut bien les voir sous un spectre plus écologique, cela provoquerait une grande transformation. Et c'est la même chose pour les entreprises où il est question de développement durable, mais cela reste souvent en périphérie dans la façon dont elles créent de la valeur. Et cela n'a pas d'impact sur la façon de produire, de distribuer et même de consommer parce qu'on ne met pas cette question au centre du mécanisme de création de valeur. Donc je pense que la question centrale de la COP26, mais aussi du G20, c'est que si nous voulons aller vite, et le dernier rapport du GIEC nous dit que nous n'avons plus que 7 à 8 ans pour agir, nous devons mettre cette question au centre de la façon dont nous produisons de la croissance économique. Ce n'est pas une question de décroissance, c'est une question de transformation complète de comment nous orientons l'économie et comment nous structurons nos systèmes de production, que ce soit au niveau gouvernemental, mais aussi bien sûr au niveau de nos entreprises, biens et services.
Thank you so much, Mariana Mazzucato. Thank you.
Thank you so much.
Mariana Mazzucato, présidente du Conseil sur l'économie de la santé pour tous de l'Organisation mondiale de la santé. Entretien avec Anne Verdaguer à écouter et à lire sur notre site internet rfi.fr. Voilà, c'est bien l'heure de se quitter et c'est justement Anne Verdaguer qui vous accompagnera la semaine prochaine dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Il y sera question de la COP26. La reprise économique est-elle compatible avec les obligations climatiques? Merci à Guillaume Munier pour la réalisation de cette émission. Portez-vous bien.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs vous a été présenté par Orange Monnaie au service de l'inclusion financière des populations en Afrique. Tout à l'heure sur RFI.